mercredi 14 février 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalungu au micro Nafis Adam Sirfo. Un bus de transport voyageur a été attaqué hier mardi 13 février par des hommes armés sur la route à Agadez-Tawa. À suivre les détails dans ce journal. Les chrétiens catholiques du monde ont débuté ce mercredi 14 février le carême de 40 jours, la signification de celui-ci avec un curé de la cathédrale de Niamey. Dans le magazine du jour, vous aurez une explication sur les produits équivalents utilisés pour pallier au manque de médicaments spécialisés dans les pharmacies. Des hommes armés à bord de deux Toyota ont attaqué un bus de transport voyageur qui a quitté Agadez à destination de Niamey hier mardi 13 février aux environs de 11h du matin à côté du village de Bab Salam situé à 45 km d'Agadez. Selon les informations recueillies par notre correspondant auprès de la gendarmerie, ces assaillants ont obligé le bus à quitter la route principale puis tous les passagers ont été dépouillés de leurs biens. D'après la même source, un passager malade a été éjecté du bus par ces hommes armés où il trouva la mort. Avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité, les assaillants ont pris la fuite. Ce mercredi 14 février marque le début du carême chez les chrétiens catholiques du monde. 40 jours de pratique et de dévotion. 40, un chiffre symbolique de la Sainte Bible selon le père Anthony Koujofio, curé de la cathédrale de Niamey. On l'écoute au micro de Aline Li Abdelmoumouni.
Nous commençons aujourd'hui, mercredi 14 février, le temps de carême qui dure 40 jours, durant lesquels les chrétiens sont invités à vivre le jeûne. Le jeûne peut prendre plusieurs formes. Il n'y a pas une règle stricte que, par exemple, c'est de telle heure à telle heure. Le jeûne que Dieu voudrait, eh bien, c'est surtout la conversion du cœur. Quand on jeûne, l'Église demande, eh bien, d'offrir ce dont on s'est privé pour aider un plus pauvre. Et notre contexte actuel nous y invite vraiment, où nous avons beaucoup de déplacés. Et ensuite, c'est le moment où il faut intensifier sa relation avec Dieu.
Chaque 14 février est dédié à la journée de l'ingénieur en génie civil au Niger. C'est dans ce cadre que les étudiants de l'école des mines et de la géologie EMIG de Niamey ont célébré cette journée avec des conférences. Le thème retenu cette année est les solutions de l'ingénierie pour un monde durable. Djouga Hamidou Habiboulay, ancien président du club génie civil, explique le génie civil et sa différence avec les architectes. Il est au micro de Rafia Abdoulay Moussi.
Le génie civil, c'est l'art qui regroupe l'ensemble des constructions civiles. Il y a un lien très particulier entre le génie civil et l'architecture parce que l'architecte, c'est l'artiste qui conçoit des plans afin que l'ingénieur en génie civil puisse les concevoir d'une manière tactique et technique en vue de sa réalisation dans l'espace et aussi dans le temps. Le génie civil joue un rôle très important et aussi très crucial dans l'aménagement des constructions parce que l'ingénieur en génie civil est quelqu'un qui conçoit l'ouvrage afin que cela soit réalisé à terme échu et aussi d'une manière technique, précise et aussi très concise. Donc ça, c'est la deuxième édition des journées des ingénieurs en génie civil. Donc c'est pourquoi nous avons été sollicités à travers le Conseil national des ordres des ingénieurs génie civil.
L'actualité en région depuis l'abrogation de la loi 2015-36, les migrants africains qui passent par la ville d'Agadez pour le Maghreb ont changé d'itinéraire. C'est un constat fait par les prestataires de la migration d'Agadez. Une situation qui impacte l'économie de la région selon Amadou Marou, secrétaire général des prestataires de la migration d'Agadez. Il est au micro de Moussa Maman.
Depuis l'abrogation de la loi, le constat est que les migrants qui ont l'habitude de passer par Agadez ne passent plus par Agadez. Nous avons détecté des axes de contournement et ces deux axes sont les axes vers Zander. Des migrants qui passent par depuis la frontière du Nigeria, un village appelé Memoujia. Les transporteurs libyens les transportent jusqu'à Libye sans passer par les postes de contrôle et consorts. Et le deuxième axe, c'est l'axe de Tawa vers l'embranchement de Tintabrada, où c'est des pick-up qui viennent les récupérer à partir du bus pour remonter vers l'Algérie sans passer aussi par les postes. Et d'autre part, ces migrants internationaux, il y a ceux qui les transportent, ils passent par les communes de Tabelotte ou de Jado sans passer par Agadez sur les sites d'orifère, et de là-bas ils remontent pour continuer à Libye. C'est pourquoi ça a posé un impact au niveau de l'économie de la région.
Restons toujours à Agadez. Relativement aux années antérieures, le service de la protection des enfants de la région enregistre ces derniers temps un nombre élevé d'enfants égarés dont l'âge est compris entre 5 et 6 ans. En général, ils viennent de la région de Zender avec des personnes candidates à la migration. Souleymane Issaka, divisionnaire du service de la protection de l'enfant d'Agadez, explique la situation au micro de Anissé Karim.
On a l'habitude d'avoir beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui viennent vers nous généralement par référencement, comme la police ou la gendarmerie. Et nous avons constaté que dans le temps, c'était pas très élevé. Même aujourd'hui, dans un seul mois, on peut avoir plus d'une dizaine de cas d'enfants égarés, auxquels on apporte toute l'assistance qu'il faut, et principalement la réintégration dans leur famille. Pratiquement tous ceux que nous avons accueillis comme enfants égarés sont malheureusement ressortissants de la région de Zender. Ces enfants-là, ce sont les enfants de toutes ces personnes migrantes qui vivent dans la commune d'Agadez. Les enfants sont obligés d'aller chercher par eux-mêmes de quoi subsister. C'est dans cette quête-là, de cette subsistance, que parfois ces enfants-là se perdent. Un enfant de 5 ans, de 6 ans, même de plus, ne peut pas se repérer et dire exactement où est-ce qu'il vit. Notre objectif, c'est quoi? C'est de porter assistance à tous ces enfants-là qui nous sont signalés ou référés.
20 personnes vivant avec le handicap de la ville de Mayayi ont bénéficié d'une formation et des kits individuels en tricotage, draps en confection, des chaises et des lits. Cette contribution est l'œuvre d'une ONG de la place. Écoutons Lawali Miko, secrétaire général des personnes handicapées de Mayayi, au micro de Issoufou Chaibou.
Nous nous réjouissons vraiment de ce geste. Nous avons bénéficié des fils, des chaises. Nous souhaitons les utiliser à bon escient et que ça profite à ceux qui vont venir après nous également. C'est dans le cadre du métier qu'on nous a appris, tel que le tissage des chaises, des lits, que nous avons bénéficié de cet appui. Cela nous permettra de vivre de ce métier en vendant nos produits et former les autres, c'est-à-dire nous sauver et sauver d'autres personnes également.
Toujours à région, 400, c'est le nombre de personnes qui ont été traitées de la gale déclarée depuis quelques jours dans un quartier de Maradi. C'est le centre de santé de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, qui a pris cette initiative à travers une caravane médicale de 2 jours. Pour Abdelkarim Amadou, infirmier, c'est juste une petite partie des malades qui est touchée vu le nombre des cas qui avoisinent le millier de personnes. Il est au micro de Mohamed Maman.
On a été là-bas pour une caravane médicale. On a trouvé pas mal des enfants, des adultes et des jeunes qui ont été affectés par la maladie de la gale. On a traité plus de 400 malades qui sont atteints de la gale. Presque le quartier est affecté par cette maladie. L'environnement est malsain. Il y a des eaux qui sont stagnées. Il y a la promiscuité des enfants. Par exemple, quand tu vas dans une école coranique, tu peux avoir plus de 200 enfants. Donc là-bas, en un mot, presque tout le monde peut être contaminé par cette maladie. C'est les écoles coraniques. Il y a encore quelques foyers qui se trouvent dans le quartier qui sont vraiment atteints. Puisque hier, on a vu un bébé qui a moins de 2 mois qui est contaminé par cette maladie de gale. Notre intervention ne suffit pas parce qu'il faut l'intervention de quelques bailleurs de fonds pour pouvoir vraiment freiner cette maladie.
Auteur, compositeur, Bob Marley est un interprète du reggae jamaïcain. À l'occasion de sa date de naissance le week-end passé, un nombre important de fans africains se sont réunis à Niamey à la Galerie Tawaido pour fêter son anniversaire. Cette fête est communément appelée les week-ends de Bob Marley. Écoutons Jasibo Chombiano, dit Jazz Chris, artiste, chanteur et promoteur de la Galerie de Tawaido, au micro de Ismaël Jibou.
Le 6 février cette année, ça tombait sur un mardi. Donc on s'est dit, on prend le week-end pour penser à lui et faire une projection de cinéma sur la Jamaïque. Donc la projection a été faite hier. En même temps, on a aussi des expositions en fait, d'artisans, de peinture aussi. C'est que déjà, le Bob Marley a passé le message. Hein. Ça veut dire, je demande juste à la jeunesse et à ceux qui sont là de toujours écouter un monsieur comme ça parce qu'il a essayé quand même de donner un langage de paix, de justice C'est grâce à lui qu'on a beaucoup d'artistes, on va dire, reggae dans le monde. Parce que si vous regardez comme au niveau des droits d'auteur, je crois, même dans sa tombe, encore, il dame beaucoup de gens. Et il y a quelques 2 ans, l'UNESCO a mis le reggae comme une valeur sûre, reconnue, quoi. Le reggae comme un message universel des droits de l'homme. Il y a différents artistes. Il y a des artistes nigériens, des artistes mozambicains. Voilà, donc ça, c'est une expo permanente que j'ai faite. C'est Peace and Love, Love and Peace.
Du sport à présent, la finale de la 5e édition de lutte traditionnelle des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, dénommée Championnat des Martyrs, a eu lieu hier dans l'après-midi au sein de l'université. Pour cette édition, c'est la Faculté des Lettres et Sciences Humaines qui rencontre le sabre. Le secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs, professeur Moussa Talibi, donne ses impressions au micro de Ali Moukaïla Ousseini.
C'est une très bonne chose que nos étudiants pensent à intégrer dans leurs activités la lutte traditionnelle, qui est une pratique culturelle, le sport roi, qui est le symbole de la solidarité, qui est le symbole de la fraternité. Et comme je l'ai dit dans mon discours, au moment où nous sommes en train d'aller vers la valorisation de nos pratiques culturelles endogènes, c'est tout à fait salutaire de voir que nos étudiants se sont emparés de cette pratique culturelle. Et pour nous, ce que nous envisageons, c'est que l'université soit aussi la pépinière pour le monde sportif, pour le monde culturel, parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Comme aux États-Unis, vous savez que les grands basketteurs, notamment quelqu'un comme Jordan, il a d'abord été étudiant, c'est à ce niveau qu'il a émergé. Donc nous voulons que de plus en plus, le monde sportif et le monde culturel aient un regard sur l'université, qu'il y ait une politique à l'endroit de l'université pour permettre justement à l'université aussi de permettre à notre pays d'avoir sur le plan sportif, sur le plan culturel, vraiment des acteurs représentatifs de notre culture.
Le magazine du journal au Niger depuis les événements du 26 juillet 2023 avec les sanctions de la CEDEAO contre le Niger, il est souvent difficile de trouver les médicaments prescrits dans les pharmacies, le stock étant épuisé. Pour pallier cette situation, souvent les médecins font recours aux produits équivalents, mais un médicament équivalent agit-il de la même manière que les médicaments spécialisés? Dr Jakite Modibo, pharmacien, répond au micro de Mamanada.
C'est quoi un équivalent?
Un équivalent de base, déjà, on parle d'équivalent à partir d'un médicament de spécialité qu'on appelle Princeps. Le Princeps, c'est le médicament qu'un laboratoire pharmaceutique a fait les recherches, a trouvé, a montré que vraiment le médicament est efficace contre une maladie. Donc lui, il crée la spécialité. Donc on lui donne le brevet. Il a une durée pendant laquelle c'est le laboratoire seulement qui a la possibilité de produire le médicament. À la fin de cette durée, le médicament tombe dans le domaine qu'on appelle le domaine public. Donc tout le monde qui a le moyen peut produire le médicament, mais à condition que le médicament soit bioéquivalent, c'est-à-dire que ça joue le même rôle, la même efficacité avec les mêmes teneurs. Maintenant, le médicament équivalent peut être différent du médicament Princeps par la forme. Puis sur la boîte aussi, vous verrez que généralement les équivalents pour les génériques, on met seulement le nom de la molécule même. Mais pour d'autres spécialités ou bien d'autres génériques de marque, on peut mettre d'autres noms. Mais le principe reste toujours. Par exemple, si je vous donne l'exemple du Doliprane, il y a d'autres laboratoires qui peuvent faire du paracétamol au même dosage avec peut-être des excipients différents, mais qui sont censés avoir les mêmes efficacités que les Doliprane. Donc on appelle ces médicaments des équivalents.
Donc je demande ce médicament, on me dit il n'y a pas, mais il y a son équivalent. Est-ce que ça peut me rassurer?
Bien sûr, quand un pharmacien vous conseille un équivalent, en temps normal, vous ne devez même pas vous inquiéter. En général, on vous propose l'équivalent en fonction de la composition. Ça veut dire que ça a la même molécule que ce que vous cherchez, ça a le même dosage que ce que vous cherchez et c'est censé avoir le même effet que ce que vous cherchez.
Prenons le cas d'une femme enceinte. Elle peut prendre des équivalents?
Oui, bien sûr, elle peut prendre des équivalents. Seulement que les femmes enceintes, leur cas, c'est un peu délicat. Donc en temps normal, elles peuvent prendre des équivalents, mais il faut faire attention. En tant que pharmacien, on peut savoir que généralement, la femme enceinte, elle peut avoir le diabète gestationnel, elle peut avoir une hypertension gravidique, elle peut avoir beaucoup de particularités. Donc en fonction de cela, on fera attention aux excipients qui sont ajoutés. Par exemple, une femme qui a une hypertension gravidique, on va éviter de donner les médicaments qui ont des excipients contenant du sodium, du NaCl, des choses comme ça. Mais hormis cela, l'équivalent, on peut le donner en connaissance de cause.
fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.